France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Je suis Paul Van Evel, né en 1946 à Hasselt, une petite ville en Belgique. J'ai créé l'ensemble Ouelgas en 1971 pour le français 71 et je suis alors l'animateur de l'ensemble Ouelgas que je dirige encore toujours.
Bonjour Paul Van Evel.
Bonjour.
Nous voici chez vous à Anvers, après Lille, où je vous ai connu, et des villes en Belgique. Avez-vous trouvé maintenant votre port d'attache principal et définitif ?
Je ne peux jamais dire définitif, naturellement, parce que la vie est un voyage et à la recherche de quelque chose. Donc, installer définitivement, c'est rien pour moi parce que ça me donne l'idée que j'arrête de chercher. Donc, et dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, je continuerai à chercher. Ici, à Anvers, je peux, dans le calme, bien travailler ici. Malgré tout ça, c'est encore toujours possible que dans un avenir, je changerai.
Qu'est-ce que cette ville Anvers évoque pour vous, Paul Van Evel ?
Bon, c'est une très très longue histoire. Je suis d'une famille avec 6 enfants, 4 frères et 2 sœurs. Et sauf moi, ils sont tous nés à Anvers. Le colonialisme culturel américain était très présent en Belgique et à Anvers, parce que la grande fabrique de General Motors avait un orchestre, avait un théâtre, une salle de théâtre, avait une harmonie aussi. Et mon père était premier violoniste de l'orchestre de General Motors. À la fin de la guerre, en 1945, General Motors a voulu arrêter toutes ces subventions et fondations culturelles à Anvers. Et ce qui est maintenant est l'orchestre d'Anvers, dont Philippe Hervé est le chef, était l'orchestre de General Motors. Et c'est la ville d'Anvers qui a presque acheté, on peut dire, Et à ce moment-là, mon père ne voulait plus continuer et il a demandé un autre poste. Donc à ce moment-là, on a déménagé et je suis le seul qui n'est pas né à Anvers. Mais donc la famille, le nœud de la famille est Anvers.
Le fait que cette ville soit un port important pour la Belgique, est-ce que c'est important pour vous ?
Partiellement. Naturellement, il y a des rapports avec Lisbonne. Et dans le temps, il y avait des rapports très forts entre Lisbonne et Anvers au XVIe siècle. Il y a même des noms en portugais qui sont finalement dérivés des noms flamands. Un exemple, Beurzekens, ce sont les souliers très hauts que les putes ont portés à l'époque à la porte d'Anvers, Beurzekens. Et en portugais, le mot est Borzegich. Borzegich, ce sont des souliers hauts, donc, mais cela dit, pour le reste, la ville d'Anvers est une ville du Nord et Lisbonne est la dernière ville de l'Europe avant d'entrer dans des autres régions. Donc pour le reste, il y a très très peu de connexions.
Cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa no vestir, sempre airosa, no branco véu da saudade, cobre o teu rosto, linda princesa.
On va faire un grand bond vers le sud de l'Europe, puisque vous avez cité la ville de Lisbonne, qui est une ville où vous vous rendez très régulièrement depuis quasiment votre vie de jeune adulte. Pourquoi cette ville de Lisbonne vous a-t-elle autant fasciné? Pourquoi vous fascine-t-elle toujours aujourd'hui? Et pourquoi est-ce peut-être votre deuxième port d'attache dans toute votre vie?
Oui, si je voyage direction Lisbonne, ce que je fais régulièrement tous les deux mois, un peu comme ça, si je voyage direction Lisbonne, j'ai toujours le sentiment que je retourne. Et si je quitte Lisbonne pour revenir dans le Nord, j'ai toujours le sentiment que je quitte quelque chose que je devrais finalement pas quitter. C'est un sentiment qui est arrivé dès la première minute que je suis arrivé à Lisbonne, quand j'avais, je pense, 24 ans. C'est pas une ville de l'Europe. La notion du temps et du bruit est totalement différente à Lisbonne que les autres villes. Si on compare les rues de Francfort, par exemple, et les rues à Lisbonne, et je parle pas des touristes de Lisbonne, mais des habitants de Lisbonne, ils marchent beaucoup plus lentement que à Francfort, où tout le monde est toujours précipité pour arriver à quelque chose dont ils n'ont jamais arrivé. Donc, c'est un sentiment de soulagement, de quiétude et le jeu avec le temps, on pourrait dire. Il n'existe pas une horloge dans la ville qui donne exactement l'heure. Et ça, je trouve génial. Et il y a des autres qui vont à l'envers. Pas de gauche à droite, mais de droite à gauche, dans le British Bar à Lisbonne, tous les horloges des cafés vont à l'envers, donc on devient plus jeune. C'est pour ça que j'aime d'aller là-bas. Il y a une autre raison pourquoi j'aime tellement Lisbonne, c'est le sentiment presque nostalgique, mais c'est pas de la nostalgie, c'est un espoir qui est bien imprimé, exprimé et chanté dans l'art des fados à Lisbonne. Les textes, c'est toujours, sauf quelques textes qui sont faits pour les touristes, mais tous les textes originaux du fado, ça joue toujours d'espérer quelque chose dont on sait à l'avance qu'on n'arrivera jamais. Et quand j'ai demandé plus profondément la raison philosophique de cette idée-là, c'est mon ami fadista Antonio Rocha m'a dit, Paul, on a besoin de ça. Si on n'a pas ce sentiment, on meurt. Donc, pour nous, quelque chose qui coupe presque la vie, pour eux, c'est justement l'énergie pour continuer la vie. C'est toute une autre pensée que les gens du Nord n'ont pas du tout, plus du tout.
No fado em que nasci, no fado em que morri, fado vi nascer, na sina de morrer. Em tudo que eu cantei, rosto me sorri, fado me ensinou, que nunca vou esquecer. Em tudo o que eu cantei, rosto me sorri, fado me ensinou, que nunca vou esquecer. se o fado me leva.
Il y a peut-être un point de connexion entre cette civilisation du Sud et le territoire des Franco-Flamands. C'est peut-être quelque chose qui est en lien avec le paysage que vous connaissez si bien ici, extrêmement plat, où seulement les clochers des églises se découpent sur le paysage. Cette espèce de mélancolie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de mélancolique, Paul van Nevel?
Oui. Les gens qui me connaissent très bien, ils disent que je suis le plus grand romantique qu'ils connaissent. Donc, cela dit, dans la première édition 1876 de la fameuse encyclopédie néerlandaise de Van Dale, la définition du romantisme et la définition invention du Moyen-Âge. À ce moment-là, j'ai dû repenser toutes mes interprétations ou mes idées sur le Moyen-Âge, parce qu'effectivement, le romantisme n'a rien à voir avec une période, mais c'est un état d'âme. Et un côté de cet état est une forme de mélancolie. On ne peut pas comparer ça avec nostalgie. Nostalgie, c'est un amour pour le passé et rien d'autre. Donc, quand on est nostalgique, le futur, le lendemain, n'existe pas. Avec la mélancolie, c'est autre chose. La mélancolie, c'est un espoir pour le futur, de quelque chose qu'on n'a pas encore. Hein? Et mon mélancolisme est certainement venu par ma jeunesse. Moi, je ne me rappelle pas, mais je suis le plus jeune des six, des cinq autres enfants. Ils m'ont raconté que mon père avait un orchestre de chambre où on habitait à Hassel, à cette époque-là. Moi, j'avais 4, 5, 6 ans. Et mon père, qui était un fou de Wagner, avait refait les ouvertures des opéras de Wagner pour l'orchestre de chambre de la famille Van Nevel. C'était saxophone, piano, violon, violoncelle. Il manque encore un instrument que je ne me rappelle pas. Et quand ils ont répété à la maison, mes sœurs et frères racontent que je me suis mis à côté dans un coin et je commençais à pleurer. Alors sûrement un sentiment de « j'appartiens pas à la famille, hein, je suis seul, les autres jouent de la musique hein, ». La différence entre l'avant-dernier et moi, c'est quand même 8 ans. Hein. Et un autre sentiment qui a à faire avec ça, c'était le sentiment de dimanche. Quand le dimanche après-midi, tous les autres frères et sœurs étaient partis pour faire quelque chose, pour un club ou je ne sais pas quoi, ou des amis. Moi, je restais seul avec mes parents, et ma mère lisait, et mon père écoutait la radio, une séance de tous les dimanches après-midi, d'opéra, ouais. Et là, je me trouvais là, seul. Je n'avais pas un rapport ni avec l'un ni avec l'autre. Et j'ai senti ça clairement quand je suis arrivé pour la première fois à Lisbonne. Tout à coup, ce sentiment est revenu.
France Musique, les grands entretiens de Paul van Nevel.
Quand vous allez à Lisbonne, vous habitez dans un quartier en particulier, vous y avez un pied-à-terre, vous logez à l'hôtel, quelles sont vos habitudes?
J'ai des amis qui ont un petit hôtel dans le centre, en bas de Barro Alto. Tout petit hôtel familial, ils ont 20 chambres, je pense pas plus que ça. Mais sont des amis et je laisse aussi toujours mes choses là-bas. Je voyage pas avec des valises. Hein. Je laisse mes choses là-bas parce que j'ai toujours chambre 46. C'est ma date de naissance. Et j'ai une vue magnifique sur la ville, très calme. Et je me rappelle encore, parce que ce sont des services d'hôtels qui n'existent pas dans les grandes chaînes d'hôtels. Ça n'existe plus, mais je me rappelle la première fois quand je suis allé, j'ai demandé si je pourrais avoir une table en plus dans ma chambre, parce que j'ai besoin toujours de beaucoup de place pour quand je travaille. Et je dis oui, pas de problème. Alors, quand je suis revenu la soirée, ils avaient placé la table, mais ils m'ont demandé, Monsieur Van Evel, est-ce que vous écrivez main droite ou main gauche? J'ai dit main droite, mais pourquoi? Comme ça, on sait qu'on doit mettre la lampe à côté gauche. Alors je vais dire, même
quel
dans
service?
Les hôtels les plus chers de Sofitel, on vous demande jamais ça, au contraire. Hein. Voilà, donc je suis toujours là-bas et c'est au centre de la ville.
Vous avez enregistré des compositeurs portugais?
Oui, oui, oui.
Est-ce que c'est un terrain d'investigation pour vous aussi, le Portugal, au niveau musicologique?
C'est du hasard. La raison pourquoi j'ai aussi fait des concerts et des enregistrements de musique portugaise, c'est par hasard. C'est à cause que j'ai fait connaissance avec la fameuse Fundação Gulbenkian, qui avait édité, qui ont subventionné les éditions des compositeurs portugais qu'on ne connaissait pas du tout à l'époque. Et c'est par ça que j'ai fait connaissance et que j'ai vu qu'il y avait vraiment, pas tout, mais qu'il y a vraiment des compositeurs qui méritent d'être exécutés et chantés et enregistrés aussi. Donc c'est finalement grâce à Gulbenkian. Par exemple, il y a des chansonniers du 15e siècle, fin 15e siècle, hein, qui est vraiment Renaissance très tôt, et pas du tout dans le style franco-flamand, mais plutôt homophone. Et après, il y a des autres grands compositeurs qui ont travaillé fin 16e, début 17e siècle, mais totalement dans le style encore de la Renaissance, donc pas du tout baroque. Donc Magalhães, par exemple, Magalhães, un compositeur polyphonique très intéressant, Cardoso aussi, et Rebello, qui était très tardif, c'est 17e siècle, mais encore avec l'esprit de la Renaissance, comme d'ailleurs, pas seulement en Portugal, mais aussi en Espagne, hein, on trouve toute une série de compositeurs qui, jusqu'au 19e siècle, sous l'influence aussi du sicilianisme, qui ont continué à écrire dans le style palestrinien.
Qu'en est-il de votre mère? Est-ce qu'avec les 6 enfants qu'elle a eus, elle a eu le temps d'avoir une activité professionnelle?
Non. Ma mère, elle s'est mariée, elle jouait du théâtre. Une femme très sévère.
Sévère avec vous?
Aussi, oui, aussi. Mais j'ai jamais vu un couple si amoureux que mes parents. Des années après que mon père, qui est mort en 58, même des années après sa mort, si on parlait de Arthur, son mari, notre père, elle commençait à pleurer, encore toujours. Bon, c'était un peu vraiment extrême. Même des années après, oui, je vivais, parce que les autres enfants étaient mariés. Et je vivais dans une grande maison seule avec ma mère. Et elle, pour le dîner, elle mettait encore toujours l'assiette pour mon père sur la table. C'est horrible, comme un adolescent de 14 et 15 ans, de vivre dans une situation comme ça.
d'un milieu catholique.
Oui.
Est-ce que cette religion a été importante pour vous dans ce qui est aujourd'hui votre métier et le fait que, naturellement, quand on s'intéresse à ces répertoires, on travaille beaucoup sur des musiques d'église?
C'est pas le mot catholique qui est tellement important, c'est surtout l'éducation qui est derrière que je trouve important. Notamment, par exemple, je compare ça avec mon fils qui n'est pas baptisé, et pendant son éducation à l'école, je vois maintenant la différence. Il ne connaît pas de détails, rien du tout sur la Bible. Et naturellement, 85% des textes de musique sacrée, ce que nous faisons dans la polyphonie, sont des textes qui sortent de Bible. Donc, la relation, et c'est peut-être pas religieux ou sacré, ça joue naturellement un rôle, mais le plus important, c'est le poids historique de tous ces textes-là qui ont quand même une relation émotionnelle et littéraire. Et en plus, naturellement, une autre chose qui compte, que entre 11 et 17 ans, j'ai chanté dans le chœur archevêcal du collège de Hasselt.
De nombreuses heures par jour, 3-4 heures.
Oui, c'était à midi, l'après-midi, une demi-heure, je pense, répétition par voix, hein, les voix séparées. Et le soir, je pense, c'était de 5 à 6 heures et demie, environ comme ça. Et c'est là, naturellement, où j'ai appris. Oui, la seule, je me rappelle encore Bruno Moderna, parce que pour nous, c'était de la musique horrible à l'époque. Et je me rappelle encore, après l'enregistrement à Bruxelles, la soirée, très tard, on revenait avec l'autobus, direction Hasselt, collège. Et je me rappelle encore, on était tellement, on avait marre de cette musique, qu'on a commencé dans l'autobus de déchirer les partitions, jusque le chef a crié « Arrêtez, arrêtez !» parce que c'est du matériel...
Loué.
Loué. Donc on est en train de déchirer la partition. Ça, je me rappelle encore. Mais on a eu des autres très très bons souvenirs. C'est là aussi, dans le chœur, que j'ai entendu, que j'ai chanté Béla Bartok, les 4 chansons slovaques pour mixte, chœur mixte et piano. C'est, on a fait là-bas, ouais, ouais.
Extrait de 4 chants populaires slovaques de Béla Bartok par le chœur de la radio suédoise, Kerstin Hindart au piano, Erik Eriksson à la direction. Ainsi se referme le premier volet de ces grands entretiens réalisés par Lionel Quentin avec Joseph Ascal, Nicolas Mathias et Élise Leu. Il se réécoute sur francemusique.fr et l'appli Radio France. Deuxième épisode de ce portrait demain, nous suivrons Paul van Nevel faire ses premiers pas en musique ancienne au Conservatoire de Maastricht et à la Scola Cantorum de Bâle.
À réécouter sur francemusique.fr.